Et si on fichait la paix à gros Jojo, gros malin, gros farceur, gros copain, gros bisous et à toute la famille des bisounours, les bisounours, ces petits oursons pastels et dufteux qui vivent dans la charmante bourgade de Tendresseville, au pays des nuages à gauche, juste derrière l'arc-en-ciel, et dont l'activité principale consiste à se montrer plutôt sympa. Et alors ça, c'est un crime jugé suffisamment grave pour que dire à quelqu'un qu'il vit au pays des bisounours soit aujourd'hui le meilleur moyen de signifier à son interlocuteur qu'il est quand même un peu con pour pointer sa naïveté, son angélisme, sa mollesse, pour justifier aussi des effets de domination, d'agressivité et le cynisme. C'est aussi devenu un classique de la harangue, du clash, ce paresseux et définitif. On n'est pas chez les bisounours qui a détrôné le non moins pénible « on vit pas au pays de oui-oui ». Merci Inspecteur Gadget, on avait un peu remarqué, parce que s'il faut filer la métaphore et comparer l'époque à un dessin animé des années 80, moi j'ai personnellement assez souvent l'impression d'être coincé entre un G.I. Joe et Gargamel. Le lynchage, qu'il soit médiatique, numérique, physique ou verbal, perpétré par un boxeur, un policier ou un troll sur Internet, est-il devenu une norme à laquelle on s'est tristement habitué? Pourquoi est-ce qu'on a si souvent le sentiment de vivre dans un monde de brutes, alors qu'on nous dit que la violence diminue? C'est le menu du débat de midi.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et j'accueille mes trois invités en direct et en studio. Bonjour Gérald Brunner.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, spécialiste des croyances, de la crédulité, du conspirationnisme, du complotisme. Et vous avez publié « Déchéance de rationalité », c'est paru en mars dernier chez Grasset. J'accueille également Ludivine Ventini. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Rouen et vous venez de publier « Révolution ». C'est aux éditions Anna Mossa. Je précise que vous avez particulièrement étudié mai 68 et que vous allez pouvoir apporter un éclairage historique sur la violence comme instrument de la révolte et aussi de répression. Et on fera un François Josse, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes sémiologue, professeur en sciences de l'information et de la communication et légèrement graphomane. Je vais citer que deux de vos ouvrages qui sont en lien avec le débat, mais il y en a beaucoup d'autres. La méchanceté en acte numérique aux éditions du CNRS et Les nouveaux méchants quand les séries américaines font bouger les lignes du bien et du mal. C'est quoi le territoire sur lequel la méchanceté prolifère le plus quand on voit vos différents livres? On ne sait pas tellement. Internet, la télé, la politique, la rue, où sont les méchants?
Alors, ce que j'ai essayé de montrer, notamment dans le livre La méchanceté en acte à l'ère numérique, c'est que précisément, il y a une généalogie, si vous voulez, de la méchanceté d'aujourd'hui sur Internet. C'est-à-dire qu'elle commence, bien avant la télévision, à jouer un rôle aussi important dans l'extension de la méchanceté. Ce que je montre, c'est qu'en fait, il y a trois éléments qui ont fait accélérer, si vous voulez, la méchanceté aujourd'hui. C'est d'une part le spectacle dans lequel on est constamment, dans le problème, le fait de juger constamment. Alors il y a eu plein d'émissions à la télé où on se faisait inviter par des gens, par exemple un dîner presque parfait, et puis on crachait dans la soupe, c'est le cas de le dire.
Littéralement.
En disant que le repas était très mauvais ou qu'un tel avait été complètement stupide, etc. Et ça, plus aujourd'hui la technologie qui fait que on juge tout, le restaurant, tout ce qu'on veut.
La notation, fait de pouvoir noter tous les services qui nous sont proposés.
Voilà, la notation. Plus, alors c'est rajouter quelque chose qui n'existait pas de la même façon à la télévision, c'est évidemment l'anonymat. Donc ces trois éléments ont trouvé à s'épanouir sur Internet, où le fait de pouvoir se mettre en scène, de jouer avec cette société du spectacle, de se mettre en scène et de juger tout le monde sans aucune punité, en toute impunité, puisque on ne sait pas qui parle, ça s'est étendu. Et donc je pense que le territoire aujourd'hui, c'est très largement Twitter, c'est aussi les forums. C'est vrai que si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'avais beaucoup vécu cette situation, comme vous, en faisant des articles chaque semaine pour le site Le Plus de l'Obs, et je me faisais démolir par un certain nombre de gens, et surtout toujours les mêmes, mais qui avaient évidemment un pseudo, ce qui fait que je ne pouvais pas les attaquer. Donc toutes ces conditions font que moi je dirais juste que si vous voulez, la méchanceté c'est pas nouveau. Il y a deux philosophies possibles. Il y a la philosophie rousseauiste qui consiste à dire dès qu'il y a société, il y a méchanceté. Puis il y a l'autre qui consiste à dire c'est les nouvelles technologies qui rendent les gens méchants, etc. Alors moi je ne crois pas du tout à la deuxième solution, si vous voulez. Elle est simplement le lieu de l'extension de la méchanceté.
On va rester sur Internet un instant, Didier Bantini, il y a un hashtag, un mot dièse, comme on dit en beau français sur Twitter, qui demande où est la violence. Vous y contribuez d'ailleurs à ce hashtag. Elle est où la violence selon vous?
Oui, merci en effet, parce que je pense que le terme de méchanceté, il est problématique dans la situation, dans la mesure où il aurait tendance à renvoyer un peu tout le monde dos à dos. Il ne s'agit pas du tout de nier la violence qui peut se déployer en effet sur les réseaux sociaux, et vous êtes hélas, Nadia, la mieux placée peut-être parmi nous pour le savoir. Moi j'ai lu ces derniers jours beaucoup de choses sur par exemple les opposantes et opposants du gouvernement qui se font traiter de fascistes rouges, Mediapart qui est comparé à la Stasi par exemple, ou la France Insoumise qui est comparée à la Tchéka, la police politique soviétique.
Et toujours ce grand sens de la modération.
Voilà, mais à mes yeux, ce n'est pas là que se situe la violence principale. Ça n'est qu'un effet, hein, ça n'est qu'une conséquence en fait d'une violence sociale, d'une violence structurelle. Et donc c'est vrai que ce hashtag « Où est la violence ?», il me paraît important parce qu'il permet de repartir des choses qui sont vraiment structurelles, qui permettent d'expliquer précisément des conflits qui sont exacerbés aujourd'hui, qui sont rendus visibles d'abord par les luttes sociales, d'abord par les manifestations, par les grèves, etc., et qui s'expriment aussi dans les réseaux sociaux. Lesquels réseaux sociaux ont ce revers de la médaille qu'on vient déjà d'aborder et j'imagine qu'on approfondira, mais qui ont aussi cet avers, à savoir donner une visibilité justement à ce qui n'en a pas en général dans les médias un peu mainstream, on va dire. C'est très utile par exemple concernant les violences policières, puisque ça permet de montrer en quelque sorte le contre-champ ou les hors-champs des images que l'on voit par exemple à BFM TV. Mais plus encore et plus fondamentalement, je pense que cette violence, elle est d'abord sociale, elle est institutionnelle. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu les partisans du gouvernement s'indigner de vitrines brisées ou de murs dans les permanences de députés. Hein. Mais à quel moment se sont-ils ou se sont-elles indignés face aux milliers de blessés, aux quelques 435 blessés graves dans le mouvement des Gilets jaunes, aux personnes
par
qui ont été
éborgnées,
bien sûr, des personnes qui ont perdu un membre, de Zineb Redouane, qui est décédé à Marseille d'un tir de grenade lacrymogène. Et évidemment, et là, ça sera difficile de ne pas en parler, vu la gravité de la situation devant la mort de Steve Maya Canicio. Et puis, de manière générale, à quel moment les mêmes s'indignent-ils ou s'indignent-elles quand une usine ferme, et que ça, c'est de la violence? Quand une personne meurt dans la rue, ça, c'est de la violence. Quand il y a 50 suicides par an à la SNCF, quand il y a un agriculteur sur deux un agriculteur qui meurt tous les deux jours par suicide, parce qu'on a beaucoup parlé par exemple de ces agriculteurs qui s'en prennent aux permanences de députés, mais à quel moment dénonce-t-on la situation qui va être encore aggravée par le CETA et qui conduit à ce désarroi social? C'est là qu'est la véritable violence, et je pense que c'est vraiment d'abord comme ça qu'il s'agit d'en parler.
On va continuer à interroger la haine, la violence, la méchanceté, mais dans la joie et dans la bonne humeur, et c'est juste après les Fous Furieux du groupe Bagarre Kabylie-Fornie.
Je m'appelle Mousse et je vis ici. On dirait pas comme ça, mais je viens de Kabylie-Fornie. Oui, mon daron parle bien français et moi presque anglais. Oui, ma daronne est fière de moi et de la JSK. Je me souviens quand tout petit, l'école terminée, carte à me jeter, je monte sur ma porte pour ce qui était tout l'été. Comme ma daronne par la fenêtre me crée Mustapha. Va faire ton sac, chérie, car demain on part au neblé. Et puis je lève mon verre et mon majeur en l'air au futur, au passé, à Paris, à Alger, à ceux qui m'aiment ou pas, à ceux qui sont comme moi. Mustapha, c'est moi, alors qui fais-moi, alors qui fais-moi, 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 qui fais-moi.
Je m'appelle Mousse, ne sois pas surpris. Undercover comme un rocker, je te raconte ma vie. Je suis un skater, je pars à Belloum et je vis la nuit. Je serai toujours au whisky loup. Koum, koum, Kabylie-Fornie. C'était Curial ou Tizi, 300 au beurre ou chabi. Entre les deux, un au lit, Paris, Alger, Tizi. C'était Curial ou Tizi, 300 au beurre ou chabi. Comme un pauvre, je vis ma vie. Tahel Kabylie-Fornie.
Oui, je sais. Un jour je serai comme toi. Je serai parti de ta. Un jour je serai comme toi, je ferai.
kiffe le moi.
Je kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, oui c'est moi. Je kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, ça fait marre. Je kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, oui c'est moi. Je kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, kiffe moi. Je kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, oui c'est moi. Je kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, ça fait marre. Je kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled, oui c'est moi. Je kiffe le sketch, kiffe le rush, kiffe le bled. Je me lève mon verre et mon majeur en l'air au futur au passé à Paris à Alger. C'est les mêmes ou pas, à ceux qui sont comme moi. On s'appelle c'est moi, alors kiffe moi.
Midi 17 sur France Inter, c'est le débat de midi, une émission préparée par Cyril Marchand et Caroline Pommès, à la réalisation Lucie Lemarchand.
Comme tous les samedis à cette heure-là, le parking est bondé. Voilà pourquoi une jeune fille de 16 ans descend de voiture pour aller réserver la place. Mais un autre véhicule arrive à ce moment-là et se gare quand même. Mécontent, deux hommes sortent du premier véhicule. Le chef de famille est tabassé, coup de poing, coup de pied.
Des taches de sang par terre et sur les murs témoignent encore de la violence de cette bagarre.
Il y a un développement spectaculaire en France aujourd'hui de ce qu'on appelle la violence gratuite.
La bagarre d'hier n'est d'ailleurs pas une première pour Bouba.
Moi, je crois clairement qu'il y a un ensauvagement de la société française.
Ce que j'appelle un ensauvagement de la société.
Bombe lacrymogène contre jet de pierre. Des affrontements d'une violence inédite depuis des années à Toulouse.
Le foot, ça n'est pas ça. Le foot, ça n'est pas attaquer les forces de l'ordre. Le foot, ça n'est pas attaquer des devantures de magasins.
On ne peut pas projeter l'image d'un pays où il y aurait de la violence partout, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas notre identité.
Monsieur Collard, je ne vous en prie. Monsieur Collard.
Abruti, crétin, cocu.
Collard, oui, c'est insupportable.
Andouille,
c'est insupportable.
Salopard.
Coupez-leur le micro.
Pardon pour les oreilles chasses qui avaient rien demandé. Gérald Brunner, on a entendu dans ce petit zapping plusieurs extraits de politiques qui s'invectivent, qui s'insultent, même carrément. Est-ce que ça démontre qu'il y a aujourd'hui une forme nouvelle de brutalité politique ?
Non, d'abord, la brutalité politique par l'invective, elle date pas d'aujourd'hui. Hein. Il faut pas réinventer l'histoire. En réalité, notre époque contemporaine n'invente évidemment pas la violence. Elle n'invente pas, comme il a été rappelé, non plus la haine ou la méchanceté. Simplement, je crois que sur toutes ces questions, je vais essayer de parler en tant qu'homme de science. Il faut d'abord relire Fontenelle, par exemple, et se rappeler qu'avant d'élaborer des théories, il faut être bien certain de l'existence du fait. Est-ce qu'on assiste effectivement aujourd'hui à une explosion de la violence de rue ? J'entendais là l'ensauvagement de la société, etc. Moi, je demande à ce qu'on approche analytiquement ces questions et qu'on fournisse des chiffres pour parler de cette façon, parce qu'il ne faut pas confondre la visibilité d'un phénomène et sa réelle représentativité. Hein, parce qu'il y a des phénomènes ou des catégories de personnes dont on parle beaucoup et qui vont nous sembler plus nombreuses. La violence, mais par exemple, je donne un autre exemple connexe, les musulmans, par exemple, sont systématiquement surreprésentés dans la façon dont nous voyons les choses. Quand on demande aux citoyens, par exemple, français et de 14 pays, puisque c'est une enquête qui a été faite, combien y a-t-il de musulmans dans votre pays, quelle proportion représentent-ils, ils sont systématiquement surreprésentés.
C'est-à-dire qu'il y a un effet de loupe dans le fait que ce soit des sujets qui soient davantage évoqués que d'autres.
C'est ce qu'on appelle un biais de disponibilité. Et de la même façon, le marché de l'information, puisque vous êtes aussi journaliste, est sensible à la capacité de capter de l'attention, notamment chez les auditeurs. On comprend cela, car c'est une partie, évidemment, de la survie économique des médias qui se joue là-dedans. Sauf qu'évidemment, la conséquence de cela, et c'était remarqué par beaucoup de mes collègues spécialistes des médias, c'est qu'on a vu un surgissement, y compris dans les pages du Monde, par exemple, dans des journaux réputés sérieux, par exemple, du fait divers. Du fait divers, parce qu'il regroupe toute une série de caractéristiques, violence, fin spectaculaire, horrible. Et d'ailleurs, tout à l'heure, si je puis me permettre, lors de votre journal, il y a quelques minutes, nous avons tous été marqués par cet horrible fait divers de cette dame qui fait une marche arrière. Nous avons tous fermé les yeux sur le plateau et probablement nous avons mémorisé.
Alors, il s'agit pas. Ça reste une information.
C'est pas une information vraiment décisive pour comprendre le monde. Et on voit bien, sans faire preuve de trop de cynisme, que le surgissement de ce genre de proposition intellectuelle n'est pas sans rapport avec la demande potentielle d'information. Et on a l'impression que l'offre d'information sur un marché dérégulé d'information actuelle s'indexe de plus en plus sur la demande supposée. Et il se trouve que sans faire d'anthropologie naïve justement, nous avons une appétence non pas pour la violence mais pour le risque. La violence est une, si vous voulez, des faces du risque. Et n'importe quelle vidéo qui va mettre en scène une violence, par exemple, que ça soit celle des gilets jaunes ou celle des CRS contre les gilets jaunes, ou que ça soit quelqu'un qui va donner une gifle à Manuel Valls ou qui va mettre de la farine sur Fillon, ça, en l'occurrence, la gifle à Manuel Valls ne représente aucun intérêt politique particulier. Certains vont s'en réjouir, d'autres vont le déplorer, peu importe. Mais par contre, ça va être viral. Voilà, la violence et en quelque sorte l'expression de la haine va acquérir une visibilité que nous allons avoir tendance à confondre avec de la représentativité. Et nous aurons d'autant plus tendance à le faire que cette interprétation va nous permettre, va servir de cheval de Troie toute forme d'idéologie. Puisque la société est en train de s'en devenir plus sauvage, alors pourquoi ne pas appeler un État plus autoritaire, par exemple, une force plus autoritaire? Puisque nous ne sommes plus vraiment en démocratie, alors pourquoi ne pas appeler un renversement par le peuple, etc., etc. Ces déclinaisons idéologiques, elles sont très nombreuses, et elles sont, à mon avis, très, très problématiques.
Alors, vous avez relevé l'emploi du terme ensauvagement, qu'on entend effectivement beaucoup, et notamment dans la bouche de politiques d'extrême droite. Il y a un autre élément de langage politique, c'est le concept de violence gratuite, Ludivine Bontinis. Ça n'existe pas en droit, ça n'existe pas en sociologie, les violences gratuites. Pourquoi cet emploi de cette expression par le gouvernement le plus souvent ?
Oh bah par le gouvernement, la réponse est simple, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de disqualifier en fait des actes qui sont eux-mêmes politiques.
C'est-à-dire qu'il y aurait des violences gratuites, des violences légitimes et des violences illégitimes.
Mais bien sûr, il y a voilà, en effet. Alors là, je me permettrais, je cite pas souvent des évêques, mais en l'occurrence, il y a un évêque brésilien qui a eu cette une formulation vraiment remarquable, Helder Pessoa Camara, qui parlait d'une violence première qui est à ses yeux la violence institutionnelle, la violence de l'oppression, la domination, de l'exploitation. Il y a une deuxième violence, disait-il, qui est une violence réactive, révoltée ou révolutionnaire, qui vise à mettre fin à la première. Et une troisième violence, qui est une violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la violence révolutionnaire et qui se fait complice et auxiliaire de la première violence. Cette violence qu'on pourrait dire sociale, institutionnelle et politique. Et il terminait en disant, il n'y a pas pire hypocrisie que de considérer la seule violence comme la violence de la révolte, hein, la violence de la révolution. Et ça me semble en effet très juste parce que dire qu'il s'agit d'actes graves quand certaines personnes, en fait, malheureusement, sont dans un tel désarroi, dans une telle détresse sociale, mais aussi politique, de voir qu'en fait, par exemple, leur vote ne débouche que sur des promesses bafouées. Quelle est leur puissance, quelle est leur capacité d'agir, en fait? Voilà, donc cette question de la violence légitime, elle se pose en effet, et je suis d'accord sur la question de la visibilité, hein, comme historienne, voilà, aussi bien sur les faits divers que sur les bagarres dont il a été question dans ce petit reportage. Évidemment, c'est quelque chose de structurel qu'on retrouve quand on fait un petit peu de travail d'archives au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Il y a un historien qui s'appelle Dominique Khalifa qui a beaucoup travaillé sur le fait divers, la construction même du fait divers au XIXe siècle. Donc là n'est pas véritablement l'enjeu. L'enjeu, c'est que notre société connaît une conflictualité exacerbée. Et alors, pour employer un grand mot, qui est à mon avis lié à l'exacerbation aussi des rapports sociaux liés au capitalisme, lié à un certain état du système social et économique qui ne peut que tendre ces rapports. Et je terminais juste cette intervention par un petit récit très personnel. C'est hier. Voilà, je travaille actuellement sur une histoire sociale des beaux quartiers, entre guillemets, hein, sur les rapports sociaux, sur les conditions de travail dans les beaux quartiers, par exemple aux Champs-Élysées. Donc j'interroge hier des personnes qui balayent les Champs-Élysées, voilà, qui passent leur journée, voilà, dans une société de sous-traitance. Et ce qu'ils m'ont dit, tous les quatre, mais d'emblée, hein, alors c'est que eux se sentaient gilets jaunes parce qu'ils sont révoltés par les écarts qu'ils mesurent au quotidien et qu'ils vivent aussi, qu'ils éprouvent directement. Ils me disaient d'ailleurs que ce qu'ils ont vu beaucoup sur les Champs-Élysées, c'est de la répression policière et qu'ils comprennent. Hein, ils me disaient, mais vraiment, ils s'attaquent en fait aux puissants parce qu'il y a plus d'autres possibilités là. Et ensuite, ils me décrivaient leurs conditions de travail, leurs salaires qui sont dérisoires, leur journée de travail qui se sont accrues, etc. C'est là qu'est la violence véritablement et dès lors la révolte. Et la révolte, oui, elle donne de la visibilité, elle donne de nouvelles formes à cette violence.
Je vais vous citer une réaction d'une auditrice, Marie, qui nous écrit que méchanceté et violence sont selon elle deux termes à distinguer, que la méchanceté relèverait du verbal et que la violence, elle, peut être verbale mais aussi physique. Moi, je précise que j'ai tenu à employer le mot méchanceté pour cette émission parce que j'ai l'impression que c'est un mot qu'on n'emploie plus tellement. On va parler de perversité, de cruauté, de radicalité, de trolling sur Internet. François Jost, c'est vrai ou pas de dire que les gens sont méchants? Est-ce que c'est un mot qu'on peut encore employer aujourd'hui sans que ça fasse, non mais sans que ça fasse bébé?
Ben oui, ça fait un peu enfantin, c'est clair.
Et pourtant, mais... est-ce que ça décrit pas quelque chose?
Ben si, parce que si vous voulez, moi j'ai choisi ce mot parce que il permet de subsumer d'autres mots. Ce que j'ai étudié dans ce livre, c'est depuis la médisance jusqu'à la haine. Donc il y a des degrés de méchanceté et alors. Certaines méchancetés renvoient sur la violence. Moi, je suis pas tout à fait d'accord pour restreindre la violence à la violence sociale. La question qui est posée, la question de savoir si la violence est légitime ou légale, etc. C'est un vieux sujet de philosophie et comme on n'est plus dans l'époque du bac, je vais le laisser un peu de côté. Il y a une autre violence qui est une violence. Individuelle, c'est aussi de celle dont on parle, c'est-à-dire que le problème n'est pas de savoir si elle est gratuite, légitime ou autre chose, elle existe sur les réseaux sociaux. Elle existe pourquoi? Alors c'est la question, c'est que effectivement, on peut s'interroger sur le pourquoi de quelqu'un de violent, mais aussi on doit s'interroger surtout sur pourquoi on aime voir cette violence, c'est-à-dire le problème du spectateur. Et le spectateur, c'est ça qui est à mon avis ce qu'on ne veut pas voir, c'est que le spectateur, c'est lui qui a le plus de méchanceté. C'est-à-dire que il y a des philosophes comme Burke au XVIIIe siècle l'ont déjà dit, il y a un plaisir étrange à regarder des gens souffrir. C'est quelque chose qu'on n'aime pas dire parce que c'est
une forme de perversité même. Donc.
Une perversité. Alors Burke disait, comment se fait-il que quand on voit une tragédie, on aime voir une tragédie alors que tous les gens souffrent? Et Jean Kelevitch l'a dit de façon encore beaucoup plus ramassée, c'est ton malheur est mon bonheur. Donc c'est ça le problème. Et si ça s'est développé, c'est qu'effectivement, le Internet apparaît comme un lieu de démocratie, c'est une des utopies, où chacun peut parler avec chacun, où on peut parler de façon anonyme, où les statuts n'existent pas, etc. Et c'est une sorte de perversion de ce système-là qui rend violent. C'est-à-dire que on voit très bien que certains en profitent parce que précisément il y a de l'anonymat, parce que on peut parler avec chacun n'importe comment. Mais il y a de ce qu'on observe comme violence, c'est pas seulement cette violence de la rue, c'est le fait que les gens essayent de casser les communautés. Qu'est-ce qu'un troll? Un troll, c'est quelqu'un qui essaye de casser une sorte de communauté qui fonctionne bien ensemble, qui s'interroge, qui justement est dans cette utopie d'Internet, et tout d'un coup de dire non, ça suffit, moi je suis exclu de ça et je vais le casser. Une des choses que j'avais voulu, ce que j'ai vu moi quand j'ai étudié la méchanceté sur Internet, c'est que on voyait très bien la haine de l'élite et que cette haine de l'élite, c'est-à-dire par exemple moi, on m'attaquait non pas sur ce que je disais, mais en disant ah c'est un prof à la Sorbonne, ben dis donc, alors si c'est ça, bon c'était le statut qui était mis en œuvre. Quelques mois plus tard, on a eu effectivement les gilets jaunes qui s'en prennent effectivement à des statuts et c'est pour ça que Internet est un bon symptôme pour étudier des mouvements sociaux.
Gérald Brunner, vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez qu'il y a des gens qui se sont réjouis de voir ce fameux boxeur au moment des manifestations des gilets jaunes s'en prendre aux forces de l'ordre et réciproquement qui se réjouissent de voir des policiers taper sur des manifestants qui prennent du plaisir à ça.
Ce sont pas les mêmes, mais bien sûr que oui, et ils prennent du plaisir. Je serais plus mitigé de ce point de vue, tout simplement parce que pourquoi ils se réjouissent? Parce qu'ils pensent dans un cas comme dans l'autre que le boxeur ou les CRS sont porteurs de l'idée qu'ils se font du bien. Faut pas oublier le
d'où l'héroïsation de ces figures.
Oui. Et alors ça nous renvoie sur Internet, et je vais dire un mot sur cette question. Il faut quand on aborde la question de la méchanceté, ne jamais oublier le principe du rasoir d'Hanlon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le rasoir d'Hanlon, c'est un principe qui nous dit qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise seule peut expliquer. C'est un principe de parcimonie intellectuelle et qui fonctionne relativement bien. La plupart du temps, vous savez, on n'est pas méchant volontairement, comme on le dit. La plupart des gens qui produisent des actes qui sont considérés comme par nous comme des actes de violence le font au nom de l'idée qu'ils se font du bien. Et sans vouloir vous choquer, c'est exactement avec ce genre de logique qu'on arrive aussi au terrorisme, par exemple. Là, tous les terroristes
des justifications morales d'actes immoraux.
Mais je ne connais pas un seul terroriste qui ait utilisé la violence politique avec inspiration, donc même éventuellement religieuse, sans avoir l'idée qu'il fait le bien.
Est-ce que ça nous permet de faire le parallèle entre ce que vous dites et des gens qu'on a entendu dire à la télévision ailleurs, mettre sur le même plan la violence sociale et la violence des casseurs et dire que c'est la réponse du berger à la bergère.
Sur ce plateau même, Madame Ludivine Bantigny a proposé ce type de logique.
Et vous êtes en désaccord avec cette logique-là ?
En tout cas, elle est dangereuse, tout simplement parce que la polysémie du terme violence, en effet, c'est-à-dire passer de la violence dans la stricte acception du dictionnaire, est une violence d'ordre physique. C'est une atteinte qui est faite à votre intégrité physique pour X raisons, avec X motivations. Mais il est vrai qu'il existe des formes de violence symbolique. Seulement, qu'est-ce qu'on entend par violence symbolique ? Par exemple, évidemment, si je vous insulte, si je vous menace, si j'atteins à votre intégrité identitaire, je le sais bien. Par exemple, une insulte raciste, c'est une atteinte à votre identité, etc., etc. Si ensuite, par contre, par un jeu idéologique, vous convertissez toute forme d'asymétrie sociale en forme de violence qui serait à terme justificatrice d'une violence d'ordre physique. Alors là, c'est la porte ouverte à beaucoup. Je veux dire, il y a des gens. On va prendre un autre exemple pour pas tomber dans des sillons idéologiques. Un autre exemple tout à fait différent, c'est tout à fait avec ce type de justification imbécile qu'il y a des individus qui vont vous dire que cette femme habillée comme elle était une provocation. C'était une forme de violence symbolique qui était faite à la frustration ou je ne sais quoi, qui se donne donc l'autorisation d'insulter quelqu'un qui passe dans la rue. Je sais bien que cette comparaison peut sembler douloureuse en quelque sorte, mais elle est bien dans le même sillon cognitif, je regrette. Et donc il faut faire attention, ce qui ne signifie pas, puisqu'on sait que l'État, dans la définition de Max Weber, savant et politique, à la légitimité, le monopole de la violence légitime, ça ne signifie pas que toute violence d'État est légitime, attention. Voilà, il y a la question de la proportionnalité de la réponse de l'État. Je dis pas du tout que dans la situation actuelle nous y sommes, c'est pas la question, c'est pas ma spécialité, mais je dis que tout discours qui viserait à passer par une translation symbolique entre les violences faites, qui seraient la conséquence d'asymétrie sociale, et les violences physiques, qui donneraient l'autorisation à, et évidemment quelque chose que tout démocrate sincère doit condamner.
Ludivine Bantigny, je vous ai vu hausser les sourcils au moins 15 fois.
Non, mais parce que déjà, enfin, je trouve que la comparaison que vous faites, Gérald Bronner, est parfaitement déplacée. Voilà, mais surtout,
non,
je voudrais répondre.
Mais
si, bien sûr que si. Okay, je voudrais répondre sur deux points. Je voudrais répondre sur deux points. D'abord, personnellement, je ne renvoie pas la violence sociale que j'ai essayé d'évoquer, qu'on a encore entendu tout à l'heure dans le Flash Info, c'est-à-dire par exemple cette violence éprouvée par les patients et par les personnels soignants aux urgences des hôpitaux, cette violence des gens qui sont amenés à s'immoler devant un pôle emploi, cette violence de toutes ces attaques d'ailleurs qui sont portées à l'assurance chômage, au service public, au service de retraite, etc. Et je ne mets pas sur le même plan cette violence sociale, politique, institutionnelle et le bris de vitrine. Voilà. Pour moi, le problème, c'est que on met le même mot, et encore vous n'employez pas le mot violence, pour désigner les premières réalités qui sont pour moi les beaucoup plus graves qu'une vitrine brisée. Hein. Vraiment, je suis passée devant le Fouquet's hier, je peux vous dire que la clientèle était au rendez-vous et tout allait bien pour le Fouquet's. La question, donc ça c'est la première chose, mais puisque vous opposez une violence symbolique qui à mes yeux, la violence sociale n'est pas qu'une violence symbolique, hein. Elle tue des gens, elle les blesse, elle les abîme, elle les conduit au désespoir, à une vraie détresse, à un vrai désarroi.
Oui,
je voudrais terminer là-dessus. Vraiment, vous opposez la violence symbolique à la violence physique, mais si vous voulez parler de violence physique, alors là, il ne faut pas parler des vitrines brisées, ça c'est de la violence matérielle. La violence physique, elle est dans les chiffres que j'ai rappelés, des blessés graves, 435 blessés graves.
Des
2500 blessés, voilà. Mais non, mais
de
quoi parle-t-on quand on évoque la violence ?
Vous êtes un peu réductrice quand même.
François, je vous en prie, bien sûr. C'est toujours plus compliqué de toute façon, mais je vous en prie.
Non, je veux dire, c'est un peu réducteur parce qu'il n'y a pas. Vous avez raison, il y a la question de la violence politique est une vraie question. Mais il n'y a pas que ça. Vous citiez Nadia Adam ce matin dans votre présentation du débat, quelqu'un qui menaçait de mort pour une recette.
Des pâtes à la carbonara.
Pour les pâtes à la carbonara. Bon, je veux dire, on a fait tous l'expérience, ce genre de choses. chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui menacent de mort pour trois fois rien, ou simplement parce qu'ils sont pas désaccord, ils sont en désaccord, etc. C'est ça la violence quotidienne dont on parlait au départ. Et celle-ci, effectivement, elle n'existait pas dans la mesure où on ne la voyait pas.
Voilà, non, mais ça ne veut pas dire du tout qu'elle n'existait pas. Vous avez évoqué la violence individuelle.
J'ai dit une phrase entière. Vous pouvez commenter la phrase entière et pas la première proposition. Hein?
Non, mais quand vous parlez de la violence individuelle et que vous la réduisez à des explications, soit... non, je ne vous fais pas violence, simplement en essayant de vous répondre. Alors là, parce que sinon les mots perdent tout leur sens et là, on les abîme vraiment. Vous parlez de la violence individuelle, mais et en vous arrêtant à des explications alors philosophiques ou psychologiques, mais enfin, c'est quand même assez faible comme explication, parce qu'il y a un moment où on arrive à une tautologie, c'est-à-dire qu'en fait, on explique le fait, voilà, il y a de la violence individuelle parce que les gens sont violents individuellement, etc. Bon, mais il ne s'agit pas de nier cette violence-là. Je pense que d'une part le problème c'est de tout arraser, comme ça, de tout mettre sur le même plan, et d'autre part, de ne pas essayer de rattacher cette violence-là, qu'elle s'exprime, et il ne s'agit pas de la nier, à des explications qui sont beaucoup plus structurelles, qui sont beaucoup plus sociales, qui sont fondées vraiment sur le fait qu'il y a une espèce de à la fois de colère, de révolte, d'indignation, et aussi parfois de désespoir.
Gérald Brunner, est-ce que c'est la violence symbolique, c'est pas l'antichambre, ce qui va précéder la violence physique précisément?
Mais en tout cas, elle peut être instrumentalisée comme ça. On les met pas sur le même plan. Moi, je trouve que, si je peux me permettre, hein, Madame Bantini, c'est vous qui a rasé tout. C'est-à-dire, c'est vous qui mettez justement le terme de violence, alors qu'il est en fait extrêmement multiforme, sous une même catégorie. Et c'est cette même catégorie qui permet toute forme de, à mon avis, de transitivité idéologique. Mais passons cela. Vous dites que les explications sont vides ou creuses. Moi, je pense qu'au contraire, vous rapportez toute la vie sociale à une seule variable, et que c'est ça qui me paraît relativement réducteur. Je dis pas qu'elle n'existe pas. Par ailleurs, c'est vague. Je suis indigné comme vous d'un certain nombre de situations. Simplement, j'ai un peu de mal à considérer que cette indignation doit être la variable monocausale de toute la compréhension de la vie sociale. Il y a des explications pour rendre compte, par exemple, du pourquoi les réseaux sociaux ont en effet amplifié la visibilité de cette haine. Par exemple, des explications fondées sur ce qu'on appelle un effet de polarisation. C'est qu'à Sunstein a beaucoup travaillé sur ces questions, parce que précisément, les réseaux sociaux organisent ce qu'on appelle des chambres d'écho. Qu'est-ce que c'est des chambres d'écho? C'est-à-dire, c'est des endroits qui sont numériques, en l'occurrence, où on va avoir tendance à se fréquenter entre pairs, c'est-à-dire entre d'individus qui pensent à peu près la même chose.
Ce qu'on appelle la bulle,
voilà, notamment. La bulle. Ouais. Et on est tous comme ça. C'est pas Internet qui a inventé ça. Internet amplifie cette question. Et donc, c'est en fait le fonctionnement ancien de notre cerveau, car oui, nous avons un cerveau, nous avons une biologie, mais aussi, évidemment, l'hypermodernité, la réticulation du monde numérique. Et les deux s'emboîtent pour faire des chambres d'écho. Et qu'est-ce qui se passe dans ces chambres d'écho? Eh bien, on va avoir une tendance à se radicaliser, à se polariser, quels que soient les sujets. C'est pas seulement les gens d'extrême gauche, dont je suis en train de parler. C'est valable pour toutes les formes de radicalité, mais aussi simplement, par exemple, des gens qui vont jouer aux jeux vidéo, ou qui vont faire des pâtes carbonara, qui vont tout à coup insulter quelqu'un qui dit qu'il faut mettre de la crème dedans, parce que ça va leur sembler une violence incroyable. Bah oui, c'est aussi ça la vie sociale, excusez-moi. Et ça, je veux terminer sur ce point, c'est très intéressant parce que cela crée aussi des identités. Et malheureusement, si l'identité a beaucoup d'intérêt, c'est parce qu'elle crée des solidarités entre nous, généralement, elle indique aussi une logique du eux et du nous. Et à partir du moment où on est dans cette logique-là, on va apprendre à détester le eux en lui attribuant des stéréotypes, etc. Tout cela est très bien documenté par la science sociale contemporaine et c'est une des explications, pas la seule, qui fait qu'en effet, s'il n'y a pas peut-être plus de violence physique aujourd'hui dans les rues, de délinquance, etc., je pense que c'est plutôt même l'inverse sur le temps long de l'histoire. En revanche, on a l'impression d'une cacophonie haineuse permanente, parce que non seulement on la rend visible, on a envie de cela, avec une joie mauvaise, et la configuration même technique du marché de l'information nous y invite.
Il est midi 39 sur France Inter, on écoute Marvin Gaye, merci, parce qu'on n'a encore rien trouvé de mieux pour calmer les esprits, en tout cas sur moi ça marche, et puis on reparle violence et pâte à la carbonara dans un instant.
Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. No. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. Mercy. Oh, things ain't what they used to be. Oil wasted on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me.
they used to do last night. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are nice. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
Ça a marché, Marvin Gaye a fait grimper la température de quelques degrés dans ce studio. La programmation musicale est signée Elsa Béranger.
Le débat du midi, Nadia Dam sur France Inter.
Énormément de réactions évidemment, une auditrice nous écrit sur les réseaux sociaux dont on parle depuis tout à l'heure et nous demande si l'une des solutions ce n'est pas de contrôler ces fameux réseaux sociaux. J'ai 72 ans, je souffre qu'on soit obligé de parler de sujets comme cela. François Josse, contrôler les réseaux sociaux, ça ne marche pas, on ne sait pas très bien comment faire. Mais effectivement, comment est-ce qu'on peut faire baisser le niveau de violence qui s'exprime sur Twitter, sur Facebook? Alors, et peut-être aussi à la télévision, on parlera aussi de la violence qui s'exprime sur les plateaux télé.
Alors, c'est vrai que des réseaux sociaux comme Facebook ont maintenant recruté, je ne sais pas combien, des milliers de gens pour observer les messages, etc. Et je, par exemple, j'avais analysé dans un livre un cas incroyable de l'émission dont je parlais tout à l'heure, Un dîner presque parfait,
où des gens donc font la cuisine pour les uns pour les autres.
Lançaient un verre d'eau à la figure de quelqu'un d'autre. Et en fait, beaucoup de gens trouvaient que cette fille avait un physique absolument désagréable et attaquait cette fille sur le physique. J'ai constaté, en nous revenant plusieurs fois, parce qu'il y a des commentaires qui se mettent sans arrêt, qu'il y en avait beaucoup qui avaient disparu. Donc il y a eu un travail qui a été fait par YouTube. Le problème, c'est que beaucoup de gens craignent la censure et disent si on commence à obliger les plateformes de réseaux sociaux à faire attention aux messages, est-ce que on va pas avoir de censure ?
Et c'est une crainte assez légitime.
C'est une crainte légitime. En fait, le projet de loi qui a été déposé sur la loi contre la haine dit que je voudrais juste lire les trois lignes de l'article 1. Il veut lutter contre les contenus publié sur Internet et comportant une incitation à la haine ou une injure à la raison de la race, de la religion, de l'ethnie, du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap, de retirer et rendre inaccessible dans un délai de 24 heures après notification de tout contenu les messages contrevenants manifestement, etc. Je veux dire, c'est pas très très ambigu. On peut quand même juger assez facilement ce que c'est qu'un message haineux contre raciste, sexiste, etc. Donc c'est bien qu'on fasse ça. Alors il y a les juristes disent demander de faire ça en 24 heures, c'est absurde parce que d'abord c'est très court et en plus ça va obliger à classer par hiérarchie les messages les plus dangereux et les moins dangereux, etc. Bon, c'est possible, il y a peut-être des adaptations à faire. Mais je veux dire, déjà, essayer d'enlever et d'inciter les réseaux sociaux à enlever tous ces messages, ça me paraît quand même une avancée et un progrès.
Gérald Brunner, vous avez, je le disais en début d'émission, vous avez étudié les croyances, la crédulité. Est-ce qu'il y a un lien entre les conspirations et les violences, et les comportements violents? Est-ce qu'il y a quelque chose de mécanique qui se met en place?
Mécanique, certainement pas, parce que la vie sociale ne fonctionne pas comme ça. La psychologie humaine est relativement imprédictible. Mais en revanche, oui, il y a des liens, il y a des variables statistiques qui lient, par exemple, la radicalité politique et le conspirationnisme. Ça va dans les deux sens. Donc, en effet, on le comprend. D'ailleurs, c'est pas très mystérieux. Le fait quand on adhère à une théorie du complot, c'est-à-dire qu'on croit qu'en effet la vérité officielle en fait est pas et décrit pas ce qui s'est vraiment passé, par exemple des attentats, les attentats de Charlie Hebdo, prenons un exemple, auraient été fomentés par exemple par François Hollande ou le Mossad ou la CIA selon les versions. Bah, si on croit à cela, il y a de quoi pour le coup verser dans une forme de violence, enfin dans une indignation totale, c'est-à-dire que le monde est totalement mensonger et qu'on est manipulé par des forces vraiment maléfiques. Donc il est assez normal qu'il y ait un lien entre les deux. Moi j'ai un peu aussi étudié, vous le savez peut-être, la radicalité religieuse, j'ai été au contact de jeunes radicalisés,
des djihadistes.
J'y suis allé physiquement, oui. Pas de djihadistes à proprement parler. Mais enfin bon,
les aspirants
djihadistes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'ils étaient presque tous conspirationnistes, sans l'ombre d'un doute. Et il est évident mais c'est très rare. De toute façon, la vraie violence politique ou religieuse, heureusement, hein, la pratique de l'attentat est très rare. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être radical, loin s'en faut, pour passer le Rubicon de la violence physique concrètement.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est devenu plus tolérant à l'agressivité, à l'incivilité, qu'il y a une espèce de doux processus de banalisation et de légitimation de la violence, c'est-à-dire que ça choque presque plus personne aujourd'hui de voir des images de violence, qu'elles soient policières, qu'elles viennent des casseurs, de groupes religieux. On n'est plus aussi facilement choqué qu'avant.
C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on a beaucoup insisté sur les réseaux sociaux, mais on parle assez peu, par exemple, des chaînes d'information en continu qui nous débitent justement un flux tendu, ce genre d'images, et qui construisent aussi l'idée, par exemple, et là aussi dans la disqualification en général des mouvements sociaux, qui débitent
Là aussi, c'est une information de montrer des manifestations qui se déroulent.
Moi, je me souviens de ça pendant les mouvements anti-loi travail. Vous allez à une manifestation, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, voire davantage. Vous rentrez chez vous, ou alors vous rentrez chez vous, vous vous posez dans un café, vous avez des écrans géants avec BFM TV, et là vous voyez une scène de violence, une scène de casse par exemple. Et alors vous vous dites, tout ce que j'ai vécu moi dans cette manifestation, où est-ce dans la représentation de BFM TV? Bon, ça c'est la première chose, c'est que quand même, justement les réseaux sociaux, voilà, enfin on en parle de manière très générale, et puis comme si il y avait que cette question de la violence qui se posait dans les réseaux sociaux, mais souvent c'est aussi une manière d'être vigilant par rapport à ce qui nous est dit, par rapport aux images officielles ou officieuses qui nous sont ainsi livrées.
À contester l'information, c'est ce que vous voulez dire, à contester
mais
les...
C'est-à-dire que si... Alors moi je pense par exemple...
Les informations de la presse, du gouvernement,
Gérald Brunner, qu'il ne faut pas être complotiste pour être indigné, il ne faut pas aller jusqu'au complotisme pour être indigné, mais s'il y a une telle méfiance maintenant à l'égard d'un certain discours médiatique, c'est aussi parce qu'il y a une prise de conscience en raison de la hausse du niveau d'études, raison d'une prise de conscience conscience aussi liée à un certain esprit critique, il y a une prise de conscience que il y a parfois une déformation des représentations médiatiques.
Les gilets jaunes ont regardé plus RT que les chaînes en continu.
RT qui est donc la chaîne financée par
les gilets jaunes, la chaîne russe. De manière générale, le fait qu'on est abreuvé par ces images-là.
Ils ont regardé plus la chaîne russe qui donnait tout à fait une autre réalité qui n'était pas plus réelle que celle de BFM. C'est pas parce que...
ce que vous dites, qu'en fait, il n'y a pas de réel, du coup, il n'y a pas de représentation médiatique du réel possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sélection. Tout à l'heure, Gérald Brunner a parlé d'une transitivité idéologique. Hein, comme si, en fait, certains d'entre nous, ici, auraient une position idéologique et d'autres non. Mais je pense qu'en fait, justement, ces positions à géométrie variable sur la qualification de la violence, sur ce qui peut être catégorisé comme une violence, c'est déjà une position qui est en soi un choix et qui est déjà, sinon idéologique, du moins politique. Et moi, j'ai vraiment une question aussi à poser de ce point de vue sur les caractérisations. C'est-à-dire que les gens qui ont pris la Bastille en 1789, vous les appelleriez des casseurs aujourd'hui ou pas? Parce que en fait, c'est une question légitime.
Je suis vos objets d'étude puisque moi j'étais en 68 sur les barricades.
Oui, absolument. Donc, très bien.
Vous voyez.
Et donc, Gérald Brunner, vous voulez réagir?
La question de la violence était aussi.
Je voulais réagir. Je voulais d'abord donner raison à, pour une fois, Ludivine.
Faites, oui, effectivement.
Mais pas avec ce qu'elle vient de dire à la fin.
Il y a quand même.
Vous oubliez tout de même quelque chose. C'est que, en 1789, nous étions avant dans un régime de type totalitaire. On ne peut pas comparer tout et n'importe quoi.
Le régime, Louis XVI.
C'est-à-dire que oui, la légitimité du pouvoir était assumée selon le droit du sang. J'appelle ça une forme de totalitarisme. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est une forme de despotisme.
Faire une émission sur la notion de totalitarisme.
D'accord, si vous voulez. Mais passer des gilets jaunes, si vous voulez, à 1789, c'est un peu risible.
Ah non, pas du tout. C'est juste
mais
parce que
c'est pas du tout là-dessus que je voulais. C'est pas là-dessus que je voulais.
On n'a jamais parlé de casseurs, ni l'un ni l'autre.
Non, mais de manière générale, on sait très bien que la violence dont on parle, la violence dont parlait Gérald Bronner tout à l'heure sur les bris de vitrine, la violence matérielle, etc., c'est ce qu'on appelle des casseurs aujourd'hui. Donc, vous savez, le mot casseur, il a été forgé par les partisans de Louis-Philippe dans les années 1830 pour désigner les républicains. Donc, ceci pour dire que les mots sont importants, justement, quand on parle de violence, les mots sont
justement
importants.
Et il faut aussi continuer à leur redonner une histoire. Et si on peut en finir une phrase, effectivement, on n'arrête pas d'essayer de vous rappeler à cela que les mots sont importants et qu'on ne peut pas mettre tout dans une catégorie très générale et un peu métonymique, si vous voulez, toute une série de faits qui sont très disparates. Là où je voulais vous donner tout à fait raison, c'est sur le traitement, en effet, médiatique de, par exemple, prenons les Gilets jaunes, puisque c'est quand même un des grands événements sociaux, le grand événement social qui a marqué la France. Et en effet, je trouve aussi qu'il y a eu une asymétrie de traitement de l'information, mais qui est peut-être... Alors, c'est là où on serait pas d'accord sur l'interprétation. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, je suis pas dans le secret des lieux, pourquoi BFM a mis ça en avant, etc. Je crois simplement, là aussi, je pratique un peu un rasoir de parcimonie conceptuelle, je pense parce que c'est un bon produit médiatique, malheureusement.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que la haine, la violence, les images de violence, c'est devenu un produit médiatique?
Mais
c'est,
ça l'a toujours été, et ça l'est d'autant plus que le marché de l'information est dérégulé. Non, ça, la violence, la sexualité, il y a quelques grands thèmes qui ont toujours intéressé l'être humain en tant qu'être biologique aussi. Et il se trouve que quand le marché est dérégulé, qu'est-ce que ça révèle? Bien, ça révèle l'anthropologie réelle de ce qui nous intéresse, puisqu'il n'y a plus de régulation de l'information. Et donc, en effet, BFM, de ce point de vue, c'est pas glorieux, hein, c'est pas tellement glorieux, ne se fait en tant que chaîne d'information continue que le relais d'un certain nombre de nos appétits. Et je ne l'exonère pas de ses responsabilités en disant ça, mais c'est tout à fait autre chose que d'imaginer que BFM fait ça pour discréditer un mouvement. Je dis pas qu'il n'y a pas des intérêts aussi politiques, idéologiques parmi certains éditorialistes, évidemment. Je n'en sais rien. Mais je veux dire que, de façon parcimonieuse, il faut déjà simplement analyser le fonctionnement du marché de l'information.
François Joyce, est-ce qu'il y a des dispositifs à la télévision qui sont faits, qui sont calculés pour développer les pulsions, pour laisser s'exprimer la méchanceté, la perversité, la cruauté du téléspectateur?
C'est certain, notamment la télé-réalité. Hein, avant l'information. La télé-réalité est quelque chose
qui éliminer des gens
fait,
en tapant deux par téléphone.
J'ai été très concerné par cette histoire, très interviewé depuis le début, etc. Et je me rappelle, on a un peu oublié qu'au début de Love Story, on éliminait les gens. Et qu'on les excluait même, c'était ça le mot. Et que ça a choqué beaucoup. Et puis finalement, on a dit on va les nominer. C'est-à-dire qu'on va pas exclure, etc. Mais bien sûr, on sait bien que ce qui intéresse les enfants sur les télé-réalités les plus trash qui se trouvent sur NRJ12 ou des choses comme ça, c'est les embrouilles, j'ai pas le vocabulaire jeune assez bien, mais c'est tout.
Moi non plus.
Les clashs.
C'est les clashs, enfin tous les moments où ça castagne peut-être, etc. Donc bien sûr, c'est un dispositif qui joue sur la moquerie dans la méchanceté la plus basse de cours d'école jusqu'à la haine effectivement. Et moi j' ai vu très souvent, c'est intéressant parce que on regarde les personnes qui sont vraiment qui deviennent des boucs émissaires dans cette télé-réalité, c'est souvent la fille assez jolie blonde, etc. C'est-à-dire qu'il y a des types aussi qui servent de boucs émissaires.
Gérald Bronner, cette culture du clash, elle est apparue dans l'actualité, notamment à propos d'affaires du type la Ligue du LOL, des affaires de harcèlement sur Internet. Est-ce que on a des moyens de pouvoir réguler ça autre que par des lois?
Lutter contre la lutte des clashs.
Non, mais nous-mêmes peut-être en changeant nos comportements sur Internet. Est-ce qu'il faut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, quitter Twitter? Il y a aussi cette dimension.
Alors effectivement, il y a des formes de régulation. Moi, je pense que je l'ai dit plusieurs fois que le marché est globalement dérégulé.
Comment est-ce qu'on peut se protéger de la violence ?
Et qu'il faut le réguler, ce marché. C'est pas un gros mot de parler de régulation d'un marché, mais simplement il faut être très attentif à ce que ça ne devienne pas un dispositif liberticide. C'est vraiment un enjeu de civilisation dont on parle. Alors comment réguler ? Comment je sais pas s'il faut appliquer la chaise vide, être en retrait, etc. Parce que si on fait ça, si les gens les plus raisonnables quittent les réseaux sociaux, les réseaux sociaux vont continuer à exister, mais ils vont peut-être être saisis par les gens les plus radicaux, ce qui n'est pas forcément non plus dans notre intérêt collectif. En revanche, je pense que les grandes plateformes ont une énorme responsabilité, et je vois d'un bon œil, effectivement, ces dispositions légales, même si je suis plus sceptique pour des raisons techniques, je suis pas sûr que ce soit si facile que ça, même en embauchant beaucoup de gens, en utilisant l'intelligence artificielle, etc. Mais on n'a pas le temps de rentrer sur ce débat. l'ordre d'apparition de l'information. Ludivine Bantini l'a très bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de traitement d'information neutre, c'est vrai. C'est toujours un choix, parce que le réel est infini. À la limite, on peut décrire la scène que nous avons vécue.
C'est une question qu'on a débattue dans cette émission hier, le point de vue journaliste.
Donc ne revenons pas là-dessus. C'est tout à fait vrai. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est effectivement développer son esprit critique, au moins au niveau analytique, pour ne pas être trompé par des mots, par exemple, pour ne pas être trompé par un type de raisonnement. Et ce qui est sûr, c'est que les grandes plateformes, Facebook fait beaucoup d'efforts. Je dirais que YouTube, c'est un peu le mauvais élève de la classe avec Google, etc. Mais parce que le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts direct. Il y a un conflit d'intérêts entre eux, c'est-à-dire les objets cognitifs qui vont attirer notre attention, la haine, etc., en sont de bons exemples. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Et puis, la volonté d'éditorialiser le monde de façon raisonnable. Mais il ne faut pas croire qu'en ne faisant rien, c'est bien. C'est-à-dire que l'idée que si on ne fait rien, on préserve les libertés individuelles est un paralogisme. Car en réalité, si on ne fait rien, on laisse faire une logique algorithmique et une logique aussi de groupes qui vont avoir beaucoup intérêt, grand intérêt à faire valoir leur point de vue plus que les autres. Et il va y avoir une asymétrie de visibilité des points de vue. On revient, le serpent se mord la queue, on revient au thème de notre début.
Ludivine Bantini, un dernier mot très très court parce qu'on est en retard.
Oui, même si j'ai pas de nostalgie particulière pour l'avant marché dérégulé, c'est-à-dire l'office de la radio-télévision française, par exemple, sous De Gaulle, qui, quant à elle, exerçait sa censure. Je suis d'accord avec l'idée d'un marché de l'information, d'un marché aussi du divertissement télévisuel tel qu'il a été décrit. Mais dans ces émissions de télé-réalité qui ont été ici évoqués, le principe de l'exclusion, le principe de l'exclusion par l'élimination et par la mise en concurrence, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment au quotidien dans le monde social, dans le monde du travail. Et c'est de ça aussi qu'il faut s'indigner décidément, et pas seulement de ce qui se passe à la télévision ou sur les réseaux sociaux.
Et ce sera le mot de la fin, en tout cas pour ce débat.
Le débat de midi sur France Inter.
Parce que c'est l'heure de la question rituelle qui conclut cette émission. J'aimerais savoir avec quelle personnalité vivante ou disparue vous aimeriez pouvoir débattre, croiser le fer. Ludivine Bantini.
Ce ne serait pas croiser le fer, mais c'est Angela Davis, parce que j'ai une profonde admiration pour elle.
Dites qui elle est pour nous.
Militante des droits humains, militante notamment des droits civiques, mais de ce qu'elle appelle aussi les droits fondamentaux, l'égalité, évidemment, et le combat contre le racisme. Mais c'est aussi une militante féministe, une militante pour lesquelles tous ses engagements ont failli la mener non seulement à la prison, elle a connu la prison, mais également elle a été condamnée à mort et injustement, et elle a été acquittée. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup chez elle, c'est cette manière de croiser justement les luttes sur la question du rapport social, du rapport de domination, sur la question du racisme, du féminisme, ce qu'elle appelle l'émancipation. Et donc elle continue aujourd'hui à imaginer une société différente du monde dans lequel nous vivons.
François Joss, c'est très 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 vite.
Alors, après avoir travaillé sur la méchanceté, on m'a demandé d'écrire sur la bêtise. J'ai écrit dans ce livre...
Vaste sujet, on pourra faire un débat ici aussi.
Le psychologie de la connerie. Oui. Et bien, j'aimerais parler avec Flaubert, qui était un vrai spécialiste de la bêtise, et je pense que le débat serait assez intéressant.
Gérald Brunner.
J'aimerais beaucoup parler avec Alexis de Tocqueville, non pas à débattre avec lui, mais parce qu'il avait une telle vision qui est encore juste aujourd'hui des problèmes démocratiques, de la mélancolie démocratique. J'aimerais beaucoup savoir, par exemple, ce qu'il pense des réseaux sociaux.
Merci à tous les trois pour avoir débattu de la violence dans le calme et la courtoisie, ou presque. Demain, le débat de midi sera consacré au vieillissement démographique. Existe-t-il un péril gris? On attend d'ores et déjà vos témoignages et vos questions à la page Le Débat de Midi sur France Inter.fr.